écrivant aux chrétiens de Thessalonique dans la première épître au chapitre 1er, l'apôtre Paul disait ceci. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Il y a quelques années, on m'avait demandé d'intervenir aux conférences de Palaiseau sur le thème « Une église qui rayonne ». C'est un défi, et c'est un véritable défi lancé à chacun d'entre nous d'être une femme, un homme, un jeune qui rayonne de Jésus-Christ. C'est un défi également qui est lancé à notre communauté d'être en tant qu'église locale, tout à la gloire, tout à la louange de la gloire de notre Dieu. Au début de son ministère, Jésus, sur le sermon, dans le sermon sur la montagne, a dit une parole très belle à ses disciples. Il leur a dit : Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans notre région, on remarque toutes sortes de villages construits par les anciens sur les collines, sur les hauteurs. Et chaque soir, depuis des années et des années, ils éclairent dans l'obscurité de la nuit. Il y a une lumière qui jaillit de ces villages, une lumière visible de loin. Lorsque nous nous approchons de ces lieux, eh bien, nous découvrons en regardant un peu à nous-mêmes que ces lumières attirent et qu'elles sécurisent et puis qu'elles nous indiquent le chemin, qu'elles nous indiquent le lieu où nous sommes. Parfois, ces lumières de ces villages sur les hauteurs nous paraissent comme une lumière unique, mais en fait, cette lumière qui jaillit de ces villages se compose d'un grand nombre de petites lumières, très différentes les unes des autres, chacune avec une utilité particulière. Et je trouve que c'est une superbe image que le Seigneur Jésus nous a donnée de ce que doit être l'Église locale, de ce que doit être notre Église, une ville située sur la montagne, comme une ville située sur la montagne et qui rayonne et qui éclaire. Mais au travers d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes, et qui sont eux-mêmes des petites lumières. Alors, comment comprendre cette exigence du Seigneur ? Être un homme, une femme qui rayonne, être une église qui rayonne. Alors, vous le savez que j'ai une affection particulière pour le petit Robert, le dictionnaire. Et quand on va regarder la définition dans le petit Robert du verbe rayonner, on découvre plusieurs choses. Tout d'abord que dans un sens premier, le verbe rayonner signifie répandre de la lumière, mais aussi porter l'expression du bonheur. Et que dans un sens figuré, ce verbe signifie répandre, manifester ou se manifester à partir d'un point donné dans toutes sortes de directions. Alors, qu'est-ce qu'une vie qui rayonne? Et qu'est-ce qu'une église qui rayonne? Or, selon le sens premier du dictionnaire, ce serait donc une église qui porte l'expression du bonheur. Vous savez que dans nos dictionnaires, il y a souvent pour accompagner le mot des citations qui ont un peu pour but d'expliquer les définitions. Alors, savez-vous quelle citation a été choisie pour expliquer le verbe rayonner? C'est un mot de Bernanos, et ce mot que l'on trouve dans le Petit Robert dit « La grâce de Dieu ne devrait-elle pas rayonner de vous ?» C'est comme un clin d'œil du dictionnaire en notre direction pour nous dire « La grâce de Dieu ne devrait-elle pas rayonner de ma vie d'homme, de femme, ne devrait-elle pas rayonner de mon Église ?» Le pardon, l'amour, la vie du Seigneur ne devrait-elle pas se voir comme à l'œil libre, se voir dans ma vie ? Dans un très beau psaume, c'est le psaume 34, David nous confie son expérience personnelle. Il nous dit ceci, c'est le psaume 34 et le verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Par ces mots forts, David souligne la source du vrai rayonnement, la source du bonheur, la source de la joie. Il nous dit, n'est-ce pas, que c'est en s'approchant du Seigneur, que c'est en étant en relation, en contact intime avec Dieu, que nous pouvons rayonner, rayonner de joie. Mais au travers de cette parole, David souligne plusieurs choses. Il souligne tout d'abord la responsabilité de l'homme. Ta responsabilité, ma responsabilité, la responsabilité de notre communauté. Il nous dit quand on se tourne vers lui, ou quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Pour se tourner, il faut une décision, il faut un acte personnel, il faut prendre le temps de le regarder, il faut prendre le temps de lui parler. Et David en a fait l'expérience et il le dit, quand je me tourne vers lui, alors je rayonne de joie. Quand on se tourne vers lui. Et il nous interpelle donc sur ce que nous vivons, sur ce que nous faisons nous aujourd'hui en tant qu'homme et en tant que femme. Nous ne pouvons pas espérer rayonner, nous ne pouvons pas espérer avoir une communauté qui rayonne si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour rencontrer le Seigneur. Quand on dit se tourner, eh bien, cela nous dit également qu'il faut se détourner. Pour se tourner vers Dieu, eh bien, il faut se détourner de tout ce qui m'empêche d'être en contact avec lui. Et parfois, ce sont des choses justes de la vie. C'est peut-être le travail, c'est peut-être le ménage, c'est peut-être les enfants, enfin, que sais-je. Mais il nous faut apprendre que si nous ne nous détournons pas de choses utiles, importantes, pour nous approcher du Seigneur, eh bien notre vie ne rayonnera pas. Pour se tourner vers Dieu, il faut aussi de se détourner de tout ce qui m'empêche d'être vraiment avec lui, de toutes ces choses qui, dans ma vie, prend la place du Seigneur, de tout ce qui m'empêche d'être vraiment en communion avec lui. Dans un beau texte, là, d'Exode 34, il nous est montré Moïse sur la montagne du Sinaï. Dans les versets 2 et 4, il nous est dit que l'homme, Moïse, de bonne heure le matin, a pris le chemin de la montagne pour rencontrer son Dieu. Il est même précisé au verset 3 qu'il y est monté seul. C'est-à-dire que c'était sa responsabilité à lui, comme c'est notre responsabilité à nous, personnelle, de rencontrer le Seigneur. Et puis, dans ces versets, il est dit qu'il monte à la rencontre de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a un objectif bien précis, c'est ce contact, c'est cette rencontre de ce Dieu immensément grand. Et le texte de préciser que là, il se tient devant lui. Et donc, l'invitation est forte pour vous et pour moi à nous tenir devant Dieu. Impossible d'être un père de famille, une mère de famille, d'être un homme, une femme, un chrétien engagé si je ne me tiens pas devant le Seigneur pour le rencontrer. Et là, l'homme, Moïse, va entendre la voix du Très-Haut. Et cette parole est fantastique dans ce texte de 34 de l'Exode. L'Éternel. L'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Cette parole, Moïse l'a saisie pour lui-même. Alors on découvre un Moïse à genoux devant Dieu, un Moïse qui s'écrie « J'ai trouvé grâce à tes yeux, pardonne, pardonne mon iniquité, mes péchés, et prends-moi pour ta possession, que je sois tout à toi. » Puis vous savez que les textes nous racontent que Moïse va redescendre de cette montagne à la rencontre du peuple. Et il y a quelque chose que Moïse ne savait pas, c'est que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel, parce qu'il avait été en contact avec l'Éternel. Un défi pour vous et pour moi, un défi pour l'Église, d'être un homme, une femme qui rayonne. Une église qui rayonne. Je crois que hier, comme aujourd'hui, il est possible de rayonner. mais que le rayonnement dépend de ma vie avec lui. Je vous ai dit que le mot rayonner ou le verbe rayonner avait un sens direct et puis un sens figuré. Et dans le sens figuré, rayonner, c'est se manifester dans toutes sortes de directions. C'est se manifester dans un lieu géographique en obéissant à l'ordre du Seigneur, d'être témoin là où il nous a placés et au loin, comme nous le dit le livre des Actes au chapitre 1er, d'être témoin en essayant de toucher tous ceux qui sont à nos côtés, quels qu'ils soient, de quelque milieu qu'ils viennent. C'est donc ce que l'Écriture attend de nous à Toulon, être une Église qui rayonne. Et je voudrais prendre très rapidement trois exemples de trois églises dont il est question dans le Nouveau Testament, de trois églises qui rayonnaient. Alors, ces trois églises, ce sont celles de Jérusalem, d'Antioche et d'Éphèse. Je crois qu'il faut faire une première remarque, à savoir que l'église d'Antioche n'a pas une vie calquée sur celle de Jérusalem, ni Éphèse une vie calquée sur celle d'Antioche. Chaque église a sa vie propre et son rayonnement particulier. Et ceci nous dit déjà que nous, on a à voir notre rayonnement particulier. On ne peut pas rayonner de la même manière que telle ou telle autre communauté. On doit rayonner comme Dieu le veut pour notre communauté à nous. Tout d'abord, donc, quelques mots rapides sur l'Église de Jérusalem. Vous savez, cet ordre qui est donné, « Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et après l'ordre, on regarde, on observe, on regarde cette église de Jérusalem et le début du livre des Actes nous dit comment ils se sont lancés dans la réalisation de cette mission que le Seigneur leur a confiée. Ces premiers chrétiens de Jérusalem, on les voit ensemble, on les voit manger ensemble, on les voit dans la rue ensemble, on les voit dans les lieux publics ensemble. Et la Bible nous dit qu'ils prêchent les merveilles de Dieu. Ils disent « Jésus qui a été crucifié ». Ils disent que c'est là le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et évoquant cette Église, évoquant un de leurs prédicateurs au chapitre 8 des Actes, il est dit « Il prêchait Christ ». C'est donc la marque de Jérusalem. Ils ont un message et un seul, celui du Christ Jésus. Ils ont une vie ensemble. Ils persévèrent, nous dit le texte biblique, dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils sont un pour le Seigneur. Et voilà donc comment nous aussi, nous pourrions rayonner à Toulon. L'église d'Antioche, quelques mots. L'église d'Antioche est une conséquence directe de la persécution qu'il y a à Jérusalem. Quand on lit le texte des Actes au chapitre 13, on découvre qu'elle est composée de chrétiens sympathiques. Ils sont tout pleins du Seigneur. Et quand on lit le texte biblique sur Antioche, on découvre qu'il n'avait qu'un seul mot à la bouche, et ce mot, c'est celui de Christ. Partout, en tout temps, ils disent Christ, Christ. Et c'est là, nous dit Acte 11, que pour la première fois, on a appelé des hommes les chrétiens, parce qu'ils avaient un cœur rempli de Jésus-Christ. Et cette église qui avait le cœur rempli de Jésus, eh bien c'est elle qui a envoyé l'apôtre Paul et ses compagnons pour entreprendre les grands voyages missionnaires en Asie mineure, en Europe du Sud, dans toutes ces régions où il va fonder toutes sortes d'églises, et puis entre autres Éphèse. Alors un petit mot encore. Vous savez qu'on a des textes anciens et des textes parfois d'histoire. Et il y a un homme, Pline le Jeune, donc un homme de cette époque, et qui a écrit concernant l'église d'Antioche, et il a dit ce mot, c'est la lumière d'Asie. Une lumière dans une région. Et j'ai trouvé le mot très beau, et je voulais vous poser cette question. Quel témoignage rend-on de vous et de moi? Enfin, une troisième église, celle d'Éphèse. Elle vit à une époque où il y a un commerce, des banques, des richesses, un tourisme étonnant dans la ville. Elle est dans une position stratégique. En fait, il semble qu'à l'époque, tout lui sourit. Elle est le départ de tout un réseau routier, elle est dotée d'un port, elle est une ville en plein essor. C'est une ville importante, 250 000 habitants, nous dit-on. Elle possède même un théâtre, 25 000 places, des thermes, mais aussi une des sept merveilles du monde, un temple somptueux dédié à la grande Artémis. Alors voilà donc cette ville dans laquelle Paul va arriver aux alentours de l'an 50, et il va y séjourner pendant 3 ans. Il va dire une chose étonnante concernant la ville d'Éphèse. Il va dire, quand il est arrivé là, la porte s'est ouverte toute grande. Et il nous dit au travers ces mots que l'évangile a été accueilli, que l'évangile s'est enraciné profondément dans les cœurs, et qu'il y a eu là rapidement à Éphèse une église et qui s'est mise à rayonner. Alors, cette église va rester seule pour suivre son témoignage. Et puis, quand Paul va écrire à l'église d'Éphèse, il va dire un certain nombre de choses. Dans cet épître aux Éphésiens, il dit, en parlant de cette église, leur foi exceptionnelle. Il dit leur amour pour tous les saints. Il nous dit aussi qu'ils forment un corps harmonieux, juifs, grecs, esclaves et hommes libres. Ils sont tous ensemble, un pour le Seigneur. Un corps formé de toutes sortes de membres, chacun placé comme Dieu l'a voulu. Et dans cette église, l'œil ne dit pas à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ensemble ils sont devant le Seigneur, soumis à Christ et engagés dans le combat pour l'Évangile. Écrivant à cette église, Paul les félicite. J'ai entendu parler de votre amour pour tous les saints. Ah, ils ne se regardent pas les uns les autres en se critiquant, en se jugeant, en s'accusant. Ils se regardent les uns les autres et disent, n'est-ce pas, qu'ils sont ensemble, hommes et femmes, choisis, aimés de Dieu, pécheurs graciés, qui mènent ensemble le bon combat de la foi. C'est une église qui rayonne. Quelques années plus tard, Jean va écrire au sujet de cette église. Et il va montrer plusieurs marques importantes de la communauté. Il dit premièrement, dans Apocalypse 2, verset 2, il dit « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire « Je connais ta foi active, vécue, je vois l'action publique que vous menez, que vous vous rangez du côté de Jésus ». La deuxième marque de cette église, c'est son travail. Je connais ton travail. Il faut voir ici le poids d'un labeur apostolique, d'une activité missionnaire engagée de l'église, d'une église qui persévère dans la réalisation de l'évangélisation. Une troisième marque, je connais ta patience. Apocalypse 2:2, c'est une église persévérante. Elle ne se décourage pas devant les difficultés, devant les luttes, toujours en avant, toujours en avant. Et puis la quatrième marque, c'est son attitude à l'égard des méchants. Le même texte nous dit que cette église ne peut supporter les méchants. Elle supporte tout pour le nom de Jésus, mais elle ne supporte pas les méchants. Et enfin, une cinquième marque, c'est sa vigilance à l'égard des faux prophètes. L'Église les a mis à l'épreuve. Les faux prophètes ont été démasqués, proclamés menteurs. Ils appartiennent au clan de l'ennemi, on n'a rien à faire avec eux. Ah, c'est une église extraordinaire. C'est une superbe église qui rayonne. Et pourtant, dans la balance de Dieu, il y a un contrepoids. Il y a le contrepoids de l'abandon de l'amour. Et ce contrepoids de l'abandon de l'amour pèse plus lourd que toutes les marques de cette église. Il y a un obstacle, et un obstacle majeur au rayonnement de cette église. Et cet obstacle, le texte nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour a un double sens. C'est tout d'abord ce feu, cette flamme qui embrase un cœur au début d'une vie, au début d'une conversion, qui pousse à chercher Dieu, à lire la parole, à participer à toutes sortes de rencontres possibles. C'est cet amour, ce feu qui n'est plus là dans les cœurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est aussi ces gestes gratuit et d'amour, de bienveillance envers les âmes, croyants et non-croyants. Paul avait déjà écrit depuis cette ville d'Éphèse, « Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, mes paroles ne servent à rien. Si je n'ai pas l'amour, mes actes ne servent à rien. » Or voilà que dans cette église, cet amour-là a été mis de côté, abandonné, rangé comme une chose devenue inutile ou superflue. Ce qui persiste à Éphèse, c'est la routine de la vie d'Église, des hommes et des femmes qui vivent dans la routine. Oh, cette routine est loin d'être condamnable. C'est déjà une belle chose, mais le Seigneur attend plus de toi et de moi. La lettre est là et supplie les chrétiens de cette Église, supplie l'Église de se souvenir. Souviens-toi, nous dit le texte. C'est une invitation à remodeler sa conduite, à retrouver l'élan amoureux de la première jeunesse avec le Christ. Et je voudrais vous poser la question. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de notre Église? C'est la rentrée et je voudrais vous appeler, nous appeler à rayonner. Et pour rayonner, les textes sont là pour nous dire « Cherche le Seigneur et alors tu rayonneras de joie. Vis, vis l'amour tel que le Seigneur te le demande et alors tu en auras les bénédictions. » Savez-vous que dans ce texte de l'Apocalypse, il y a un avertissement très fort. Il est dit que si l'Église ne retrouve pas son élan amoureux de sa première jeunesse avec le Christ, eh bien, que le chandelier sera enlevé et donné à quelqu'un d'autre, comme « J'ôterai ton chandelier de sa place ». Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Dieu nous a donné la responsabilité de rayonner dans notre famille, de rayonner auprès de nos amis et de rayonner en tant qu'Église. Et que si moi, en tant qu'homme, et si en tant que père, et si je ne rayonne pas, eh bien Dieu passera le flambeau du rayonnement à quelqu'un d'autre. Il a besoin de moi, il veut de moi, mais si moi je le néglige, alors je serai bientôt un chandelier sans valeur. Il y a donc un appel très fort pour être individuellement et collectivement cette ville dont nous avons parlé tout à l'heure. Une ville qui éclaire, une ville qui sécurise, une ville qui se montre. Dans ce texte de l'Écriture, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit veut te dire ce matin. Dieu t'appelle à rayonner. Et si tu ne rayonnes pas, eh bien, la Bible nous dit les risques.